les Français, à force d'immigration incontrôlée.
Claude Guéant en chevalier blanc de la laïcité.
Le gouvernement déploie du coup 16 000 hommes sur le terrain dès ce
soir. Qu'est-ce que la faillite de la Grèce?
On
choisit de vivre à crédit, mais il faut qu'il paye.
Parlons peu, mais parlons bien, on va se retourner vers nos camarades. À savoir, la République peut-elle durablement s'opposer à la démocratie? Les élites qui nous gouvernent peuvent-elles indéfiniment agir malgré, voire contre le peuple? On va donner encore une fois du sens au son avant qu'on passe le balai. Mais comme on dit toujours, il faut d'abord passer le balai devant sa porte, devant chez soi, avant de passer des coups de balai chez les autres. On est retour dans nos studios à la compagnie de nos camarades, du grand chef communiste local, Michel Passé. Il incarne l'avant-garde éclairée d'un prolétariat en voie de disparition. Il lutte, il est né comme ça, contre vents et marées, il rame dans les dédales de la démocratie qui est de moins en moins populaire et de plus en plus populiste. Avec lui, l'homme qui s'impose, le syndicaliste qui voit rouge quand on lui parle de patron et qui sait ce zouave, Serge Ragazzacchi, le baron cégétiste du département. À que demande le peuple? That is the question. Là est la question.
J'aurais pu le dire en allemand. Hein.
J'aurais pu le dire en allemand, oui, effectivement. Ça, c'est une autre affaire. Bon, on va faire une petite proboscopie d'abord. Je m'adresse à tous les deux. Là. Peut-on être vraiment démocrate quand on est communiste?
Je crois que, justement, on est vraiment démocrate quand on est communiste et on est communiste quand on est vraiment démocrate.
Bah, on sait que quand même, les seules démocraties que les communistes aient faites sont des démocraties populaires dont on a vu.
Oui, mais je crois qu'on s'est expliqué pendant longtemps là-dessus. On peut y revenir pendant des années. C'était une caricature du communisme la plus tragique, qui n'avait rien à voir avec les valeurs que porte le Parti communiste français ou d'autres communistes d'ailleurs dans le monde. Je crois que ça a été quelque chose de dramatique. Entre parenthèses, d'ailleurs, souvent on nous reproche, à juste titre d'ailleurs, ces ignominies, ces drames qui ont été vécus. Il faut aussi regarder les autres, hein, on les reproche un peu moins. Mais je voulais quand même dire une chose, moi qui me préoccupe à ce moment de l'émission, quand on parle de République, d'État, etc. Et tout. Vous savez, certainement vous le savez, hein, puisque vous êtes des journalistes avisés, l'équivalent de la population de Montpellier, dans les roues. Vous savez qu'ils vivent avec moins de 900 euros par mois actuellement, au moment où on parle. Au moment où on parle, 250 000 personnes dans ce département vivent avec moins de 900 euros par mois.
Et près de 11 millions de Français.
Et près de 11 millions de Français, mais je le prends sur le terrain. C'est-à-dire que, imaginez, toute la ville de Montpellier qui gagne moins de 900 euros par mois. Est-ce que, moi je ne le sais pas parce que je gagne plus. Est-ce que vous savez, est-ce que vous approchez ces gens qui n'ont que 900 euros par mois pour vivre le drame qu'ils sont en train de subir? Et c'est à eux que je pense à cette année d'anniversaire, vous voyez, de l'élection de François Hollande. Ces gens-là, ils n'avaient qu'un petit espoir, hein, vivre un peu mieux. Vivre un peu mieux, ça passait par gagner un peu plus, simplement pour pouvoir manger correctement parfois, simplement pour pouvoir se loger correctement, et notamment chez les jeunes. Quelle déception! Quelle rancœur ils ont contre la République en général. Ouais. Eh bien, je crois que c'est vers eux, c'est avec eux, c'est pour eux qu'il faut qu'on réfléchisse ça. Et c'est peut-être avec eux et pour eux qu'on est communiste.
Alors justement, il y a quand même une chose qui a bougé ces 30 dernières années, parce que depuis Thatcher au Royaume-Uni, Fillon en France, mais héros aujourd'hui, l'État ne cède plus à la rue. Il est fini le temps des reculades gouvernementales, fini le temps des Mitterrand en 84, des Chirac en 86, des Balladur en 94, des Villepin en 2006 et autres démocrates. Fini le temps des manifs bon enfant où l'on défile sur le trottoir pour ne pas gêner et où l'on s'arrête au feu rouge pour ne pas embouteiller les voies publiques. Est-ce qu'il ne serait pas revenu le temps nécessaire des barricades alors que des despotes gouvernent le pays? Enfin bref, je pose la question aussi des limites des manifestations de rue. Est-ce qu'il ne faudrait pas des manifs violentes? Enfin, parce que quand le désespoir, justement, est à cette hauteur-là, comme tu le disais, 250 000 héroletés qui vivent en dessous de 900 euros, jusqu'à quand vous allez les appeler à manifester sur le trottoir, s'arrêter au feu rouge et pas mettre de bazar?
Mais c'est toute la distinction qui existe, tu parles de manifs violentes, entre des révoltes et des révolutions, justement. C'est ça le vrai problème.
D'abord on saute un étage un peu rapide, parce que puisqu'on était parti à débattre de démocratie, entre Jean-Marc Ayrault et nous, il manque un tas d'étages. Moi, je m'interroge, il a dit tout à l'heure, les députés européens, à quoi servent-ils ? Moi, les députés de l'Hérault, à quoi servent-ils ? Parce qu'on a été les voir. Ils nous ont dit tout un tas de choses, et ils ont voté complètement différemment.
C'est-à-dire les
sur qu'on a été les voir. Alors il y a certains qui veulent pas nous voir. Donc ça m'interroge en termes de démocratie, parce que je veux bien qu'on renvoie tout le temps la balle dans le camp des communistes. Mais enfin,
qui refuse de vous voir ?
Ah ben il y en a même qui sont au conseil éditorial de cette belle émission. Enfin une dame, je crois.
Ah d'accord. Donc Annibal Lodin refuse de vous recevoir.
On a envoyé un certain nombre de courriers. On a fait dans la presse. Alors il y en a qui ont. Moi je m'interroge parce que quand même, j'estime que le député il a une fonction dans notre public. Autrement on comprend plus rien à rien. Si on repart pas de là, on peut toujours faire les cours d'éducation civique qu'on veut. Ça marchera pas. Donc moi, je m'interroge. J'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale sur le texte de l'ANI de façon approfondie. 60 députés au grand maximum en séance sur un texte qui touche des millions de salariés, qui touche la vie économique, qui touche la vie de millions de familles, qui dérégule le droit du travail, les conventions collectives. Tout ça passe en une semaine.
En l'occurrence, 60 députés, en l'occurrence, vous y êtes peut-être pour
rien. J'ai parfois eu l'impression que mes interlocuteurs n'avaient pas lu le texte.
En l'occurrence, vous y êtes peut-être pour rien, vous, au niveau CGT, oui, voire même au niveau Parti communiste. Mais vous avez appelé à manifester, vous avez appelé. Et les gens ne sont pas descendus dans la rue.
Ils sont descendus. Attends, on va. Parce que tu as commencé tout à l'heure par une petite provocation. J'avais pas eu le temps d'y rebondir. Tu viens de m'en donner l'occasion. Le 1er mai, il y a plus de 160 000 personnes dans la rue, d'après les syndicats, au moins selon la police, on connaît le business.
En France, qu'est-ce qu'on voit en France ?
Personne. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on voit dans toutes les actus qui passent en boucle, qui est repris par les journalistes ? De longue, on voit les 3 000 manifestants de Marine Le Pen. Moi, ça me pose question. Il n'y a plus. Alors, vous dites personne. Je ne suis pas d'accord, mais je vous laisse libre de cette
interprétation. Non, mais il fut des temps où il y avait un million de manifestants en 1er mai sur la France.
Personne, je demande. Alors, comment on a consacré autant de temps à Marine Le Pen, qui a réuni 3000 personnes, 3000 à Paris, presque 200 000 dans toute la France, à l'appel des organisations syndicales. Et le jour de la manifestation, journée internationale du monde du travail, avec tout ce que ça comporte, en particulier de signification sur les questions de la paix dans le monde, de la solidarité au-delà des frontières, tout ce que ça comporte comme idée de progrès, on focalise et on organise des débats sur le Front National, débats entre l'UMP et le Front National. Et là, moi, je dis, ça me donne un argument pour être en désaccord avec toi quand tu dis qu'il n'y avait personne le 1er mai. Je pense qu'il n'y avait pas personne. Je pense qu'il y a eu des manifestations. Aujourd'hui, il y a un grand désespoir. Il y a un grand désespoir dans notre pays. Or, aujourd'hui, on ne donne pas la parole et on ne donne pas le micro et on donne peu la parole à ceux qui, aujourd'hui, souffrent le plus. C'est pour ça qu'il y a un danger pour la République.
Non, mais que les syndicats, que certains syndicats aient signé des accords avec le gouvernement, d'autres non, etc., peut expliquer éventuellement, mais quand même, avoir 4 cortèges différents le 1er mai, ça ne facilite pas les choses. Et deuxièmement, hier, j'ai été surpris sur l'analyse de la manifestation donc parisienne, notamment, mais dans d'autres villes, à l'initiative donc du Front de Gauche, d'autres associations, d'autres groupements aussi. Et la plupart des journalistes, y compris sur TF1, qui n'est pas forcément une radio très ouverte en termes politiques, en tout cas pas forcément cryptée à gauche, disaient et constataient que Mélenchon avait réuni beaucoup, beaucoup plus de monde que Marine Le Pen quelques jours avant, sur TF1, sur Antenne 2, sur e-télévision, sur BFM TV, tout en signalant qu'effectivement un sondage disait que les Français considéraient Jean-Luc Mélenchon comme plus sectaire que Marine Le Pen et que Marine Le Pen avait sans doute plus de propositions à faire pour la modification de la société que n'avait en faire Jean-Luc Mélenchon. Ce qui était coup de patte. Mais ils reconnaissaient tous qu'il y avait plus de monde.
Je crois de quoi souffre quand même aussi sur un point de notre société. C'est qu'il y a besoin du lien entre les mouvements sociaux et le politique. Ça, on est en train d'en crever de ça. C'est-à-dire que il y a les luttes qui sont grandes, petites, moyennes. Moi, je
reviendrai sur la manifestation. Le Parti communiste qui a toujours pas digéré la charte d'Amiens de 1906.
Non, mais je reviendrai sur la manifestation.
Donc en même temps, le taux de syndicalisation en France est ridicule.
Oui, mais pourquoi ? Parce que quand les gens sont
1906, il est 1921.
Quand les gens manifestent, il faut leur montrer que c'est utile.
C'est que ça devait être varié.
À force de leur dire que manifester c'est inutile, ou de les faire manifester pour des choses qui n'ont pas d'utilité directe pour leur vie ou pour la société française, eh bien oui, les gens se disent à quoi ça sert.
Mais comme pour les partis politiques. Comme pour les partis politiques.
Exactement pareil. Non.
Faire des comparaisons. Non,
il faut que le politique écoute la rue, donne des gages de confiance à la rue. Si vous regardez les commentaires par rapport à l'immense succès de la manifestation de hier. Il manque une chose dans ces commentaires-là. C'est pas que Jean-Luc Mélenchon, même si c'est un homme que je respecte et qui a beaucoup de talent. C'est quand même des partis politiques qui ont appelé à cette manifestation. Et plusieurs partis politiques. La deuxième chose, hein, c'est sur l'analyse de la manifestation. Son but, c'était quoi ? Mais son but principal, c'était de rassembler, de redonner confiance au peuple de gauche pour mettre en œuvre une autre politique que celle qui est mise actuellement et qui est un gâchis depuis un an. C'est ça le but de cette manifestation, c'est construire quelque chose. On ne l'a pas beaucoup entendu, ça, à la télévision, etc. et tout. Et je crois qu'il faut quand même qu'on remette les choses. Et comment vous voulez donner confiance aux gens si seulement c'est la révolte, s'il n'y a pas de perspective de déboucher dans les luttes ou au niveau des politiques.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de coup de balai pour la manifestation d'hier, tel que Mélenchon l'imaginait ?
Alors, si c'est pour donner le coup de balai aux technocrates européens, à la Commission, Mélenchon, je suis à 100% d'accord avec lui, il faut le donner et vite. Si c'est pour donner un coup de balai à des parasites qui vivent sous le dos des travailleurs, je suis d'accord. Par contre, moi, je suis pour. Et je mets d'ailleurs au défi les camarades, je dis les camarades volontaires, volontairement, de toute la gauche, de réussir le changement en France. Parce que la question, ce n'est pas d'un coup de balai, c'est de réussir le changement. Les gens, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent à ce que leurs conditions de vie, de travail, etc., s'améliorent. Et c'est ça qu'il faut réussir. Pour terminer, ce que j'aurais bien aimé, c'est que l'ensemble de la gauche, à bout d'un an d'anniversaire de gauche, avec le président de la République en tête, descendent de les Champs-Élysées en se félicitant de la politique qui a été menée pour les travailleurs en France.
Alors justement, à propos des luttes syndicales, et notamment de Florange, réaliser une pierre tombale pour Hollande à Florange, est-ce que ça va suffire pour modifier le cours de la désindustrialisation en France ?
Enfin là, on est dans des actes de désespoir, enfin. On est dans le désespoir le plus complet, c'est un symbole, mais je crois que là, on touche au désespoir le plus complet. Les gens, ils se sont dit, cette fois-ci, peut-être qu'ils vont tenir la promesse. Cette fois-ci, peut-être, ils vont tenir leur promesse. Parce que ce n'est pas la première fois que quelqu'un en campagne vient voir des gens en grève pour leur dire, on va sauver l'usine. En plus, il y avait eu l'épisode avec Montebourg, hein, qui avait parlé d'intervention de l'État, et puis finalement, ça n'intervient pas.
D'une nationalisation provisoire.
Une nationalisation provisoire. Mais enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a aujourd'hui des économistes qui écrivent et qui disent ce que disent les syndicalistes, à savoir que l'État français, pour la production de l'acier, va se faire dicter les ordres par l'étranger. Donc tout ce dont on parle après, c'est-à-dire si le rôle de l'État et du gouvernement aujourd'hui de Jean-Marc Ayrault avec une majorité, si ce n'est pas de donner, de garantir des capacités nationales de production, si ce n'est pas ça son rôle, eh ben je crois que ça produit des espoirs. Et d'ailleurs, il continue à en produire. C'est pour ça que je reviens sur mes députés, Hérolté. Je les invite à se ressaisir. Il y a le texte sur l'amnistie des syndicalistes qui devait passer, qui a été barré d'un coup de crayon. C'est une honte, parce que quand les politiques ils ont besoin de se voter des amnisties, que je sache, on n'en fait pas un grand débat. Il y a eu déjà plusieurs textes d'amnistie et ça a bien arrangé. Là, les gens qui se sont battus dans des conditions, et puis il faut voir, parce qu'on nous montre généralement dans les images télé des choses très violentes. Nous, on sait comment ça se passe dans l'entreprise. Comment on vient provoquer le collègue dans l'usine pour lui faire péter un câble. On sait comment le patron, il est capable de faire 3 ans de pression sur le salarié avec tout ce que ça génère dans sa vie de famille et comment à la sortie, eh ben lui, il n'a jamais une nuit avec les menottes, il n'est jamais embêté alors que l'autre a souffert pendant 3 ans. Et parfois, il y a des systèmes d'organisation du travail qui conduisent au suicide. Et j'attends qu'on aille chercher celui qui a mis en place l'organisation du travail qui a conduit au suicide pour le juger. Est-ce qu'on l'a jugé une seule fois? Combien de suicidés dans les entreprises françaises? Combien d'accidents du travail? On a aujourd'hui sur ce département des accidents du travail qui repartent à la hausse dans le bâtiment parce qu'il n'y a plus assez d'inspecteurs du travail pour faire les contrôles. Et là, les gens, ils meurent. Et là, on va voir les familles. On leur offre des transactions financières honteuses pour que l'accident du travail ne soit pas reconnu. Et là, personne ne dit rien. Ça, c'est de fait amnistier. Et aujourd'hui, on va chercher des militants syndicaux. On les traite comme des violeurs, comme des assassins, avec les prélèvements ADN. Et ça, un gouvernement de gauche, il ne l'amnistie pas. Mais où va-t-on? Alors moi, j'appelle les députés de ce département à se ressaisir. Hein, parce qu'ils ont encore en face d'eux des responsables syndicaux, des gens responsables pour leur parler. Mais demain, la chose, elle va changer. Continue à pousser au désespoir. Continue à pousser. Et on les a prévenus. Et on ne sait pas comment ça va tourner l'affaire.
Alors justement,
nous, on est extrêmement inquiets.
Justement,
mais eux, ils sont à l'Assemblée nationale, ils votent les lois. Avec cette qu'ils votent les bonnes.
Cette montée du désespoir que tout le monde ne peut que constater, c'est clair. Et tu en parlais tout à l'heure, en rapport à la manif du 1er mai, d'un côté les syndicats et de l'autre côté le Front National, comment analyser et combattre éventuellement la montée en puissance du Front National? Cette vague, entre guillemets, bleu marine, est-ce qu'elle risque pas de se transformer en tsunami électoral? Et là, je parle de l'année prochaine, ouais. C'est-à-dire pour les municipales, d'un côté, et surtout pour les européennes,
oui, surtout.
En 2014.
Avant d'en arriver aux municipales européennes, comment combattre, disons, sur le fond? Mais, voilà. La crise qu'on connaît très profonde. Alors on peut dire il y a 3-4 ans, etc. Non, elle a commencé en 1983. Ça a été le moment, 1983, où il y a eu une rupture, où on a considéré qu'il fallait diminuer la part qui revenait au travail sur les richesses produites. Et depuis, ça n'a cessé de baisser en France ou dans d'autres pays. Et on a, en France et dans d'autres pays, dévaloriser ce qui est le plus fondamental dans une société, c'est le travail. Au niveau que ce soit un travail manuel, intellectuel, etc., que ce soit et que le travail dans son sens large du terme, la formation pour former des gens qualifiés, etc., ça n'a cessé de baisser. On en arrive au résultat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un échec économique, de déficit, etc. Et tout. On a quoi? On a une crise de la société phénoménale. Phénoménal.
Crise de société, justement.
Je vais en venir, d'ailleurs. Donc, d'abord, il faut se donner les moyens d'inverser ça. De se dire, on est allé à l'échec, on est allé dans le mur. Il faut avoir le courage de le dire. Eh bien, aujourd'hui, il faut mettre en œuvre. Ça peut prendre du temps. Hein. Je ne suis pas quelqu'un, moi, qui dit ça va arriver du jour au lendemain. Mais d'enclencher une autre logique pour sortir de la crise catastrophique de société. Parce que les mesures les plus extrémistes, les plus fascistes, concernant notamment, vous venez de parler du Front National, elles prennent racine là.
Alors justement,
regardez au niveau...
Justement, tu as prononcé un mot, justement, fascisme. Et moi, j'ai une question qui va te permettre de continuer à développer, en gros, ce que tu dis, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, 2013, est-ce que la situation économique, sociale, politique et tout ne ressemblerait pas à celle des années 30, voire au-delà d'un 6 février 34 qui n'a pas encore eu lieu mais qui pourrait avoir lieu, ou est-ce que, plutôt que le comparer avec les années 30, est-ce que ça ressemblerait pas plutôt à la situation de la France en 1788, à savoir à la veille de la Révolution, au moment où l'État français, l'État royal, était en situation de banqueroute, qu'il y avait une misère sociale, etc., etc. Bref, est-ce que cette comparaison avec les années 30, que font certains, avec la veille de la Révolution française, que font d'autres, notamment Le Point la semaine dernière, est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent?
Vous savez, on peut toujours regarder ce qui s'est passé hier. Ce qui est difficile, c'est de prévoir ce qui va se passer demain. Au niveau des mouvements sociaux, etc. En tout cas, pour ma part, j'espère qu'on sera en capacité en France et dans le monde d'inventer autre chose. Parce que les années 30 ou certaines années ont conduit des avancées, mais aussi ont conduit à des catastrophes. Il ne faut quand même pas l'oublier.
Si on introduisait la proportionnelle à l'Assemblée nationale avec une participation des citoyens à l'élection qui va nécessairement baisser, notamment à gauche, on peut très bien avoir un Front National qui soit, qui arrive comme premier parti relatif et ne pas avoir la majorité. Rappelle que, alors je ne fais pas la comparaison parce que c'est pas du tout le même phénomène, c'est pas du tout, moi je ne crois pas à cette situation, mais Hitler est arrivé au pouvoir avec 34%
oui,
des voix.
Mais voyez, c'est pour ça qu'au début de mon intervention, Je parlais de s'attaquer et vraiment aux racines du mal. Parce qu'après, le reste, si on ne s'attaque pas aux racines du mal, mais on essaie de façon politicienne, technocrate, etc., de trouver des remèdes. Vous savez, c'est un peu comme le chasseur, son chien ne chasse pas bien, il coupe les deux pattes de devant, il dit maintenant il chasse plus vite. Non, c'est en s'attaquant aux racines du mal qu'on fera prendre conscience aux gens, et notamment aux jeunes, qu'il y a un avenir dans cette société, qu'on peut bâtir autre chose que l'injustice, qu'ils peuvent s'inscrire dans cette société pour construire, et c'est pas seulement en se révoltant qu'ils arriveront à se faire entendre, voire à se faire taper sur la figure. Et on peut avancer ces choses-là. Mais ça, c'est une condition indispensable.
Et dans les conditions indispensables, je me réfère à Mélenchon, est-ce qu'il faut vraiment renverser la Ve République ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement se contenter de lui couper
oui,
la tête ?
Oui. Alors là, il faut faire suivre les institutions à ce changement. Tout le monde constate quand même que la Ve République ne correspond pas du tout à la société française actuelle et ne correspond pas du tout à un développement démocratique en ce qui nous concerne, qu'il faut dire à la société. La preuve, c'est que on parlait tout à l'heure de l'acte 3 de décentralisation, je ne sais pas qui en a dit un mot, moi j'appelle ça l'acte 3 de l'austérité pour les collectivités territoriales, voilà la disparition des communes. Mais on bricole, on essaie de faire rentrer la France dans un costume qui ne lui va pas, mais c'est vraiment scandaleux. Imaginez, on va arriver à l'absurdité. L'absurdité. Et là, je vais prendre les départements de l'Hérault. À l'absurdité d'avoir, sur un même territoire, deux personnes, un homme et une femme, qui aient le même pouvoir. Ça va éliminer les petits partis. Ça sera, faut dire, deux grands partis, notamment le Parti Socialiste, UMP.
Mais écoutez,
le jour où il y aura deux socialistes dans l'Hérault qui vont s'entendre pour diriger un même territoire, bien, vous me les citerez, ou deux UMP. On a l'exemple tous les jours, on est même pas, ils ne sont même pas capables de s'entendre pour diriger une ville.
Ou deux fronts de gauche,
si vous voulez. Je reprends la remarque pour moi aussi, mais je ne suis pas favorable à la loi, c'est pour ça que je l'évite. Ceux qui la votent, ils devraient réfléchir un peu. C'est une catastrophe.
Et pour les municipales, dans les petits villages, l'élection municipale se fera en même temps que l'élection communautaire. C'est-à-dire que... et sur liste bloquée. Quand on votera pour l'un, il faudra obligatoirement voter pour l'autre.
Mais vous en venez à une question importante sur cette loi, puisque vous parlez des municipales. C'est qu'actuellement, tout le monde est en train de regarder dans un certain nombre d'endroits qui sera le maire. Je ferai deux remarques par rapport à ça. La première, en 2008, avec ce petit jeu-là, les élections municipales dans l'Hérault ont été catastrophiques. Et plus particulièrement dans la banlieue de Montpellier, où la plupart des villes, Villeneuve-et-Maguelone, Pignan, Saint-Jean-de-Védas, et je pourrais en citer d'autres, sont passées à droite. Attention, la plupart des villes moyennes...
À droite, Villeneuve-et-Maguelone, c'était quand même un adjoint de Gérard Bouisson qui...
Oui, mais il a changé, on ne peut pas dire que quand même, je ne crois pas que le maire de Villeneuve-Maguelone puisse être recensé dans le Parti Socialiste ou le Front de Gauche. Mais la droite a progressé au municipal, contrairement aux autres départements de France. Et je dirais qu'il faut stopper la droite et à notre périphérie, je dirais, dans un territoire que je connais bien, et d'ailleurs Serge aussi, c'est pas parce qu'il y a une frontière du département, il y a une députée Front National. Moi, je veux pas de collard dans l'Hérault, ni à la tête d'une mairie, ni à la tête, disons, une sorte de député. La deuxième chose, c'est que plutôt que se disputer pour savoir qui sera le capitaine de l'équipe à la tête de liste, mais on ferait mieux de discuter de quels sont les pouvoirs. Quels sont les pouvoirs des collectivités territoriales ? Quelles seront leurs compétences ? Sur quoi les gens ils vont voter ? Parce qu'on est en train de tromper les gens. Parce qu'on est en train de faire en sorte, par exemple avec la question de la métropole, qui est une des pierres angulaires, je dirais, du système. On est en train de faire en sorte en disant, mais les élus de Montpellier, que vous élirez au conseil municipal, ils seront dans le camion, Un camion, il sera élu. Seul problème, c'est qu'ils n'auront ni le volant ni la clé du camion. C'est pas eux.
Est-ce
qui
que ce n'est pas déjà le cas avec le projet OZ sur Montpellier, où effectivement l'agglomération aménage et prévoit pour les 20 ans ou 30 ans à venir un développement de Montpellier, de la ville, disons, allez, pour aller vite, de Port-Marianne jusqu'à la mer, en comprenant d'autres... Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Est-ce qu'on a besoin de métropoliser pour arriver à ça ? Et c'est vrai que la compétence urbanisme sortie des mairies annonce à terme la disparition disparition des mairies, des communes.
Il n'y a plus de mairies, et avec, la métropole n'est pas une solution, on y viendra, parce que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle, on n'a pas sorti grand-chose. Attali en a fait l'apologie dans deux ou trois de ses livres.
Il propose même la disparition carrément des départements, Attali.
Voilà, oui. Non, mais vous voyez, donc, ce n'est pas une solution, mais ce qu'il y a de grave, je dirais, c'est qu'on va tromper les électeurs, en leur faisant croire que leurs conseillers municipaux auront un certain nombre de pouvoirs, alors qu'ils ne les auront pas. La deuxième chose que je veux dire par rapport à votre remarque, c'est que la coopération, oui. La coopération, il faut la faire, parce qu'on voit très bien que dans un certain nombre de services rendus aux populations, il faut que les communes travaillent ensemble, les transports, l'eau, etc., tout un ensemble de choses comme ça. Mais la soumission, non. La soumission, non. Et je pense que la commune est une donnée, on en parlait au début de la République, et qu'elle a fait ses preuves dans la vie de la République. Il faut donc la préserver et la faire coopérer. Mais ne trompons pas les électeurs, et le débat doit porter actuellement sur cette question de décentralisation.
On tous un chèque, ce qui est...
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.